À la rencontre de nos lecteurs, alors ce que je vous propose comme chemin aujourd'hui, c'est de partir déjà à la rencontre de leur histoire. C'est peut-être pour ceux qui étaient là à Annecy, des choses que nous avons déjà vues à Annecy, mais que j'essaie de renouveler un peu, mais c'est important de peut-être d'essayer de se dresser un portrait, même s'il est un peu schématique, un portrait imagé de chacun des lecteurs et de chacune des générations de lecteurs qui peuvent être amenés à regarder ou en tout cas à lire vos journaux. Ensuite, nous irons à la rencontre de leur désarroi actuel. Et ça, c'est vraiment, je dirais, assez universel, qu'on soit très chrétien, peu chrétien. En tout cas, le désarroi est profond aujourd'hui. Et puis, du coup, à la rencontre de leurs préoccupations et aspirations nouvelles. Et j'aimerais brosser, ça sera juste un balayage de thématiques importantes aujourd'hui, qui me semblent importantes en tout cas à aborder. L'éclairage ou des textes ou un éclairage plus spirituel ou théologique, mais en tout cas les thématiques qu'il est important d'aborder aujourd'hui et qui peuvent finalement les capter en parcourant un journal paroissial. Et puis on ira à la rencontre de leur foi d'intervention. Alors, à la rencontre de leur histoire. Alors, c'est des choses que nous avions vues pour ceux d'entre vous qui étaient à Annecy, mais qu'il est important de rappeler, et puis on va voir ensemble. Mais voilà, on a plusieurs générations qui ont été marquées par l'histoire, plus ou moins, sachant que nous avons, enfin, que la formidable chance que vous avez en tant qu'émetteur de journaux paroissiaux, c'est que vous êtes à cheval sur deux siècles, sur même deux millénaires, avec des lectorats qui ont été marqués plus par le 20e ou qui sont en train de construire le 21e siècle, avec des changements de paradigme réellement radicaux, et que c'est intéressant finalement de brasser tout ça et d'aller à la rencontre finalement de ceux qui les a marqués. Alors, je commence par les 75 ans et plus. Alors, attention, hein, c'est vraiment un portrait un peu schématique selon les années de naissance et les vécus individuels. On peut se situer dans la génération du dessus ou avant. Mais en tout cas, pour ceux qui sont nés avant-guerre ou au tout début de la guerre, c'est quand même une génération qui a la particularité, et je l'ai suivie depuis 20 ans, mais qui en tout cas a la particularité d'avoir été profondément marquée par l'histoire avec un grand H, qui, je dirais, lui a volé un peu sa petite histoire, c'est-à-dire son enfance et sa jeunesse. Je ne m'attarderai pas là-dessus, mais c'est quand même marqué par la guerre. Ensuite, la période difficile de la reconstruction en France, c'est pour ça que je vous ai mis cette image, en 1954, on avait encore une crise du logement terrible. Ensuite, marquée par guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, en tout cas, voilà. Une génération qui a été marquée par les grands mouvements de l'histoire du XXe siècle et qui en a, je dirais, retiré de ce vécu assez douloureux. C'est vraiment sans doute la génération la plus collective qui accorde un grand une priorité au lien, à la solidarité, à ces valeurs vraiment de l'entraide pour faire face. Et c'est important parce que je pense qu'aujourd'hui, vu ce qui se produit, on n'est pas en guerre, mais on est, c'est peut-être la guerre économique, je ne sais pas, c'est une autre forme de guerre ou une autre forme d'épreuve collective. C'est sans doute une génération qui a beaucoup à apporter sur ce sens de l'entraide, de la solidarité, sur la transmission de valeurs qui se sont un peu perdues avec la montée de l'individualisme parce que justement elle est dépositaire de ces valeurs de solidarité. Pour Le père René évoquait le fait que je travaille actuellement sur les EHPAD, donc je rencontre beaucoup de personnes issues de cette génération, et c'est aussi une génération qui a énormément d'humilité, qui ne se plaint jamais, qui a appris les valeurs, voilà, ne pas se plaindre, se contenter du peu qu'on a, et en cela elle redevient très contemporaine, parce qu'on va voir, ce sont des valeurs vraiment, voilà, les valeurs minimalistes, revenir au minimum vital, revenir au minimum essentiel, sont des valeurs importantes aujourd'hui, hein, pour traverser la période actuelle. Ensuite, on a une génération qui a 10 ans près, alors j'ai mis, c'est les 55-70 ans, après avoir, il y a certaines personnes qui à 70 ans sont en plein, ou qui sont un peu comme les 75 ans, ça dépend de l'histoire personnelle, mais en tout cas, c'est grosso modo une génération qui a la soixantaine aujourd'hui en moyenne, hein, et c'est la génération qui a le mieux profité, je dirais, des dernières décennies. Hein, qui a vécu, bon, sans s'attarder sur les 30 glorieuses, hein, qui n'a pas connu la guerre, qui a connu plutôt ce formidable élan d'après-guerre, voilà, les 30 glorieuses, le développement de la société de consommation, l'apparition de la télé pour tous, après la radio, mais aussi l'avènement d'une autre forme de musique, hein, le rock pour commencer, etc., et puis qui souvent a été actrice de près ou de loin, mais en tout cas c'est la génération de mai 68 et qui est arrivée sur le marché de l'emploi, donc elle n'a connu que la prospérité et la félicité. C'est une génération qui est pas mal perdue aujourd'hui parce qu'elle a connu une telle félicité, une telle prospérité, de tels paradigmes du bonheur qu'aujourd'hui quand même elle a à faire face à un effondrement un peu de tout ça. Et en même temps, c'est une génération qui du coup est la première génération, alors ne vous offensez pas si je le dis, mais la première des générations un peu individualistes du XXe siècle, c'est-à-dire c'est mon chemin personnel qui compte, hein, et qui est beaucoup en quête de cheminement personnel et individuel, et il faut l'accompagner dans ce cheminement, et encore plus aujourd'hui où tous ces paradigmes du bonheur s'effritent. Voilà. Ensuite, on a les 40-50 ans. Sont ceux qui sont nés, grosso modo, voilà, entre les années 60-75, hein, 1960-1975. Alors eux, ils sont un peu à cheval. Surtout, ils sont sur la queue des 30 glorieuses. Donc, ils ont vécu aussi avec ces valeurs-là, mais en même temps ils ont vu, ben voilà, leur enfance a aussi été marquée par différentes crises, la guerre du Vietnam qui a pu marquer plus ou moins les générations selon la période où elles sont nées, mais c'était quand même ce qu'on voyait tout le temps à la télé, je dis ce qu'on parce que je fais partie de cette génération-là, qui a été aussi marquée par la crise économique, hein. C'est la première qui commence à connaître après la guerre une crise économique, le choc pétrolier, le chômage, etc. Et en même temps, elle a vécu dans une relative aussi insouciance. C'était quand même, c'est la génération qui voit culturellement exploser toutes les formes de musique. On va du rock au funk, vous voyez, enfin bon, dans une espèce d'ébullition et de créativité. Je prends la musique, mais c'est un peu tous les domaines. C'est la génération de la boom. Sophie Marceau a 48 ans, c'est la génération de la boom. Donc elle a vécu comme ça, dans cette espèce. En tout cas, ça donne une génération assez atypique parce que quand elle arrive, en tout cas en France, à l'âge adulte, c'est la génération un peu touche pas à mon pote, qui vit finalement sur des valeurs très valeurs un peu libertaires de mai 68, hein, qu'on, voilà. C'est aussi l'antiracisme, les manifestations anti-loi d'évacuer, donc une génération qui privilégie un peu tout ce qui est égalité, tolérance, etc. En même temps, qui a connu une crise assez dure et qui va connaître plusieurs crises dans sa vie professionnelle. Il y a la guerre du Golfe en 90, la première, l'explosion de la bulle Internet en 2000, ensuite il y a la seconde guerre du Golfe, et puis qui arrive au moment où elle pourrait être à l'apogée de sa carrière, c'est-à-dire actuellement entre 40 et 50 ans, ben c'est la grosse crise économique, qui se couple à la crise de la quarantaine, à la crise de la famille. Donc c'est sans doute la génération qui aujourd'hui est la plus fragilisée, du fait qu'elle vit à la fois des crises privées et la crise mondiale, elle la prend en pleine figure puisqu'elle est en pleine activité, voilà. Hein. Donc c'est sans doute la génération la plus fragilisée, mais c'est aussi une génération qui a développé, comme elle est un peu dans le brassage d'anciennes valeurs, de nouvelles valeurs, elle a développé finalement une culture un peu tous azimuts, une curiosité tout azimut. Je pense qu'elle a de grandes facultés d'adaptation. Son défaut, c'est qu'elle est assez brouillonne, quoi, et qu'elle a un petit peu de mal à retrouver ou à se fixer finalement des conduites et des orientations. Et je pense que vous pouvez énormément aider cette génération à installer d'autres rythmes, à se poser, à trouver des repères, parce qu'elle est ballottée depuis l'enfance et qu'elle a appris à vivre avec ça, mais qu'en même temps, voilà, le ballottement finit par devenir dur, hein, aujourd'hui. Donc vous voyez un peu la différence entre les quinquas et plus qui sont dans vraiment le besoin de cheminement et dans un peu mais qu'est-ce qui se passe, comment je peux trouver mon bonheur à l'heure où plus personne ne croit au bonheur, les cadras qui sont un peu idéalistes, pragmatiques, brouillons et qui ont besoin de se poser de repères et de réfléchir leur situation actuelle, et puis on a les moins de 40 ans. Alors c'est une génération large, j'ai mis 20-35 ans, c'est-à-dire ils sont nés à la fin des années 80, hein, enfin non, plutôt fin des années 70, enfin voilà, début 80 jusqu'en 2000, hein, grosso modo un peu avant 2000, et génération qui a vécu plusieurs choses. Je vous ai mis la chute du mur de Berlin. En fait, elle a vécu l'effondrement des systèmes et des valeurs. Elle n'a pas du tout vécu quelque chose, une croyance idéologique. Elle a vu l'effondrement des systèmes et valeurs politiques, mais elle a vu aussi l'effondrement des systèmes et valeurs sociaux, avec notamment l'effondrement de la valeur famille. La famille est toujours importante, mais la famille et le couple, on n'est plus du tout sur les mêmes paradigmes qu'avant, et c'est la génération qui le vit de plein fouet. Et on verra tout à l'heure ces interrogations, notamment sur le couple, la famille, qui vit sur d'autres paradigmes. Donc elle a vu, voilà, elle a baigné dans cette crise de valeur, et en même temps elle a connu une révolution technologique sans précédent. Hein. C'est la génération clairement de l'ordinateur, c'est la génération des CD, des portables, de tous les réseaux sociaux, etc. Elle a commencé, pour les plus anciens, ils ont commencé par MSN, les plus jeunes, c'est Facebook. Vous voyez, enfin, elle a jamais connu le téléphone à cadran, ou même, enfin, on suit des gaps pas possibles, et c'est important, en tout cas, de l'avoir à l'esprit. C'est aussi en France, il y a une particularité, je l'avais évoqué aussi à Annecy, mais c'est grosso modo la génération qui a été élevée à l'école, en tout cas, qui a été éduquée à la méthode globale de lecture. Hein, c'est vraiment, elle a baigné là-dedans, et donc pas du tout dans une... C'est du coup une génération qui n'a pas, et c'est en ça que pour moi c'est la première des générations du 21e siècle, elle n'a pas du tout développé comme les trois précédentes, et même comme les cadras, une approche analytique des choses, mais une approche synthétique, syncrétique, qui va en plus se développer avec Internet, etc. C'est-à-dire une approche très associative. On prend un tout, on est dans une approche très globale. On n'est pas dans le décortiquage ou à la lettre des choses. Et c'est vraiment important parce que finalement, cette génération qui à la fois voit s'effondrer les systèmes de valeurs et n'a jamais eu autant de moyens techniques et technologiques à sa portée, ben le gap est tellement grand que cette génération, elle est vraiment en quête de sens. Et elle réinterroge tout, y compris des valeurs très privées. Hein, et elle est en quête de sens, et je dirais qu'elle est aussi en quête de source. C'est important. C'est une génération qui a été tellement coupée, entre guillemets, de la lettre, qu'elle a besoin de revenir au texte, aux sources, d'être initié au texte, aux sources, à l'origine, qui est très en quête aussi de revenir à des sources historiques, enfin d'initiation à des choses dont elle a été coupée. Alors, excusez-moi, je regarde l'heure parce que, oula, oui, il faut qu'on avance. Alors, à la rencontre du désarroi de tout le monde, c'est-à-dire que sur fond de crise, on a une énorme crise. Alors, bien sûr, il y a la crise de la foi, la crise de l'Église, mais elle ne date pas d'aujourd'hui. Et bon, il y a la déchristianisation de nos sociétés. Mais il y a surtout la crise du monde actuel, qui est une crise non seulement économique, mais une crise peut-être de l'humanisme, voire même de la modernité, hein, une crise même des valeurs de progrès, où tous les repères vacillent, c'est-à-dire tout ce à quoi on a cru, ou en tout cas sur quoi s'est bâti un peu le monde moderne, la réussite, le progrès, la prospérité, tout ça, est en train de s'effondrer. Donc les crises qui donc est à la fois financière et éthique, c'est ce que je vous disais. Et donc par rapport à ça, il y a une révolution en fait idéologique profonde qui est en cours. Et à toute cette illusion utopie du bonheur et de l'épanouissement est en train de succéder une quête un peu triste, un peu lucide de désaliénation. Et c'est vraiment important, ça traverse toutes les générations et ça concerne notamment les générations les plus jeunes que vous êtes amenés à capter, toucher, c'est-à-dire je prends les trentenaires et les cadras en tout cas tous les moins de 50 ans, ils ne courent plus tellement après le bonheur, mais c'est comment se libérer, et ça je le vois sur tout public, mais vraiment ça se renforce d'année en année, c'en est même assez assez troublant, c'est comment se libérer de tous les systèmes établis, des modes de pensée établis, des doxas, mais tout, hein, politique, religieuse, c'est comment peut-on se désaliéner de tout ce qu'on nous a appris et qui nous a mené à l'impasse. Je fais un raccourci, hein, mais c'est un peu ça l'idée. Avec l'envie, voilà, de tout réinterroger et de tout réinventer. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ce désarroi actuel, c'est qu'aujourd'hui, plus rien n'est évident, mais tout est questionnable. Et je dirais que si vous avez à traiter ou à aborder des grands problèmes de société ou d'idéologie et tout, il faut passer par le questionnement. Plus rien n'a de l'évidence. Ne partez pas sur des présupposés, des préjugés, etc. Plus rien n'est évident. Et plus vous aborderez les choses comme questionnables, plus vous irez justement à l'encontre de ces évidences établies, plus vous pouvez accrocher. Voilà. Et donc, tout est questionnable, y compris les valeurs laïques, hein, des sociétés occidentales. Alors, c'est ce que je vous disais, l'enjeu existentiel pour tous, et j'ai mené encore une étude sur les attentes en matière de philosophie qui sont très très fortes aujourd'hui, et ce qui revient tout le temps, c'est comment se libérer d'un système de pensée qui a conduit à l'impasse. Vous voyez, par exemple, mes publics, les publics, quand on les interroge, une des grandes questions qui leur vient à l'esprit, c'est « Sommes-nous formatés ?» Jusqu'à quel point sommes-nous formatés ? Donc vous voyez, tout ce qui peut être une thématique sur le formatage, le formatage actuel, c'est quelque chose qui va les capter. Et donc sur la forme, c'est, et ça vaut pour tous les journaux, mais plus encore vous qui êtes des journaux de proximité, je dirais, c'est comment sur toutes ces questions qu'on va aborder ensuite, amener des réponses inédites, pas sclérosées, donc elles se basent sur aucun présupposé, elles sont un peu inédites. Dans cette perspective, c'est comment réactualiser les messages chrétiens, c'est montrer à quel point ils peuvent être un peu inédits, à côté, dans une spiritualité ouverte qui permet en fait un peu une interaction entre activité profane et activité spirituelle. Alors, à la rencontre donc des préoccupations concrètes et des aspirations concrètes de nos contemporains, j'ai porté l'angle un peu plus sur les plus jeunes, c'est-à-dire les 20-35 ans et les 40-50 ans, parce que c'est l'enjeu de demain pour vos titres. Mais ces préoccupations et ces aspirations, elles traversent toute la société. Et ce que je vous propose, c'est de balayer un peu des thématiques précises qu'il est intéressant d'aborder dans vos journaux. Alors, première chose, il y a vraiment un peu, et c'est particulièrement vécu par les cadras et les quinquas, mais surtout les 40-50 ans qui sont en plein, je vous disais, dans la crise, enfin qui subissent de plein fouet la crise du travail et la crise économique. Mais il y a ces injonctions un peu contradictoires de l'homme moderne, c'est-à-dire que dans nos sociétés, on est dans ce fantasme du changement, on veut tout changer, on peut changer de nez, de mari, de machine à laver en un tour de main, enfin tout devient très vite obsolète. Et en même temps, on fait l'expérience critique de l'urgence et du périssable. Et le vécu douloureux des cadras par rapport à ça, des 40-50 ans, c'est qu'ils font l'expérience dans leur univers de travail à quel point ils sont périssables, à quel point ils sont périmables, voire ils sont périmés. Je suis un peu dure en disant ça, mais c'est vraiment, c'est un vécu douloureux qui s'exprime en tout cas très fortement quand on les interroge. Et ils sont en plein dans cette espèce de culte actuel, en tout cas dans les grandes entreprises, culte un peu du surhomme, zéro défaut, multitâche, faut être réactif, flexible, rapide, rentable. Et en même temps, dans un contexte vraiment de grande inhumanité, et surtout ils font l'expérience, c'est qu'aujourd'hui, et tout ce que vous pouvez aborder comme thématique là-dessus, d'abord sur les réalités du monde du travail, sur la souffrance au travail, en tout cas ils font l'expérience que finalement aujourd'hui, avant parler de valeur d'expérience, c'était bien d'être expérimenté dans le monde du travail, aujourd'hui la valeur d'expérience est devenue signe d'usure. On est comme des machines. Plus on a roulé sa bosse, plus on est usé. Et cette génération-là fait l'expérience. De cette réalité-là. Donc tout ce que l'on peut aborder, approcher comme question par rapport à ça et la manière de les aider, soit à relativiser, soit de les accompagner là-dedans, est vraiment important. Je suis désolée, je suis obligée de balayer les thématiques de manière... Donc, par rapport à ça, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire pour aider le lecteur. À réfléchir sur les tendances de fond un peu macro du monde actuel. Alors ils ne veulent pas trop d'actualité politique ou d'actualité à chaud, mais c'est vraiment où va cette humanité mondialisée, et si elle va dans le mur, quelles peuvent être les autres réponses, les autres systèmes, les débuts de pistes. Et puis, comment orienter sa propre conduite de vie par rapport à de tels paradoxes? Ça. Donc, retenez bien, ça, c'est 40-50 ans, hein, les lecteurs qui ont donc des familles, qui sont en plein dans le monde du travail et tout. C'est quelque chose d'extrêmement important pour vous, pour eux. Hein. Et c'est aussi toujours cette génération des 40-50 ans, mais ça peut traverser les autres générations, mais je fais le focus là-dessus. C'est aussi comme elle est traversée par plein de crises privées qui se rajoutent à cette crise aiguë du monde du travail. C'est une génération qui finalement vit plein de ruptures. Et c'est comment être à l'écoute finalement de ces ruptures. Avec le besoin de cette génération qui a quand même baigné dans des valeurs d'être plus que des valeurs d'avoir, qui est une génération qui a vécu un peu dans l'idée que l'égalité, la tolérance, tout ça, c'était des valeurs fortes. C'est comment l'aider à déposer ses bagages, ses fardeaux, à faire le tri entre les chaînes qui lui pèsent et les pistes pour en sortir. Hein. C'est comment la débarrasser de ses chaînes. Hein. Je parle beaucoup de chaînes parce que c'est quand on les interroge, c'est vraiment enchaînement. C'est celles qui en parlent le plus. Les trentenaires vont moins dire qu'ils sont enchaînés. Ils savent gérer leur relation au travail, en tout cas ont-ils le sentiment. Hein. Donc les questions concrètes sur cette génération des 40-50 ans, l'utilité du travail. C'est une génération qui se pose de plus en plus la question de est-ce toujours utile de travailler? Peut-on être heureux sans travailler? Non, mais c'est des questions qu'on n'avait pas du tout il y a même 3-4 ans. Hein. Donc vous voyez comment vous pouvez les capter sur le sens du travail. Et vous imaginez comment le religieux peut avoir des réponses, en tout cas le christianisme avec voilà le sens de la création, les 7 jours, le sens du travail, le sens du repos. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces questions-là, mais aussi toutes les questions des choix de vie. Hein. C'est une génération qui rêve de plus en plus et qui œuvre de plus en plus à des choix de vie complètement radicaux. Hein. En plus, ils sont à l'âge où on peut changer de vie, etc. Enfin, voilà. Donc, tout ce qui peut être aussi exemple de choix de vie différents, de reconversion totale, etc. Voilà. Et par rapport à ça, il y a plein de richesses à puiser dans les textes, forcément. Alors, toujours pour ces cadres-là, excusez-moi, je m'appesantis un peu sur eux, mais c'est important, on verra, les trentenaires sont... Bon, il y a plus largement, par rapport aux questions privées, j'ai beaucoup centré sur le travail, parce que c'est une préoccupation forte, sur tout ce qui est du domaine privé, c'est grosso modo une génération qui a besoin de ralentir. Elle ne sait pas comment faire. Hein. En plus, elle est brouillonne, elle est prise dans le stress actuel, etc. Donc, c'est ralentir, c'est retrouver un souffle, une respiration. Ça peut être aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. C'est retrouver du temps. C'est comment être dans le pas à pas et non plus dans la course. C'est retrouver aussi un contact avec la nature, beaucoup de reconversions qui se font comme ça, comme finalement dans les années 70 de la ville à la campagne, hein, on saute le pas. Donc en tout cas, une génération qui a besoin de faire le vide, de se désencombrer. Hein. Donc tout ce qui peut être témoignage d'initiative, qui renvoie un peu au lecteur une image d'acteur, voilà, pour retrouver un rythme différent. Tout ce qui peut être mémo pratico-technique pour l'aider à ralentir, pour l'aider à trouver du temps, à se trouver du temps. Ça peut être pour s'occuper de soi, hein, se chouchouter, notamment pour les femmes, mais ça peut être aussi pour installer un temps de prière. Hein, au quotidien, c'est tout ce qui peut lui permettre finalement de se réorganiser et de faire, en tout cas ils ont un terme quand on les interroge, c'est se mettre sur off, hein, c'est voilà, on peut les aider là-dessus. Alors, sinon, on a d'autres tendances de société qui traversent toute notre société, mais qui sont vraiment les valeurs fer de lance, je dirais, des générations les plus jeunes, notamment les trentenaires, hein, qui développent de plus en plus ça. C'est tout ce qui est l'auto-fabrication, hein, la revalorisation du temps passé à l'élaboration et tout ce qui est auto-fabrication, bricolage, jardinage, fait maison. Je travaille par exemple sur le marché de la nourriture pour bébés. C'est un marché qui s'effondre parce que les jeunes mamans reviennent à cuisiner pour leur bébé. Elles font donc en tout cas, il y a vraiment ce plaisir de faire à travers l'activité manuelle, culinaire, hein, mais ça peut être même dans le loisir créatif, etc. Il y a là encore, c'est des thématiques intéressantes à aborder pour voilà. Bien sûr, c'est la génération connectée qui a le plus... Autant vous voyez les cadres, faut les sortir presque de leur isolement au sein de leur famille et au sein du monde du travail parce qu'ils sont sous le rouleau compresseur. Autant ceux-là ont développé une autre, hein, ces générations plus du 21e siècle, très connectées. Ça ne veut pas dire que les cadres ne le sont pas, hein, mais voilà. Ils sont vraiment dans ces valeurs d'échange, partage, mais c'est du partage sur le net. Hein? Ce sont des générations qui valorisent tout ce qui est coworking. C'est les grandes valeurs du share, hein, c'est partager, c'est les échanges de troc, les échanges de services. C'est les sites style eBay, mais il y en a plein. Enfin, c'est les sites même de covoiturage, etc. C'est une génération qui vit que là-dedans. Hein. C'est, en tout cas, ça fait partie vraiment de ses valeurs culturelles. Et puis, c'est une génération qui tient beaucoup, peut-être encore plus que la précédente, à tout ce qui est revalorisation du tissu local, ancrage local, hein. Favoriser les circuits courts, écarter les intermédiaires, revaloriser les producteurs locaux, les commerçants locaux, etc. En tout cas, c'est moins une génération qui a besoin de faire le vide que de faire le plein et de créer des contacts et tout un réseau, mais dans son environnement immédiat, très proche. Et je trouve que vous, en tant que presse paroissiale de quartier, c'est là où vous pouvez peut-être le plus fortement les accrocher au-delà des questions spirituelles, etc. C'est, voilà, comment recréer du contact, du réseau, sur des activités qui sont un peu en marge, hein, des grands principes de société établis, c'est-à-dire comment, c'est le système D, hein, c'est l'auto-fabrication, c'est les échanges de services, c'est le soutien et la solidarité locale à des producteurs ou des acteurs locaux, et comment les aider à mettre en place ça, quel réseau leur proposer, etc. Donc je pense que vous avez vraiment un rôle à jouer par rapport à ça, donc de mise en œuvre très concrète, tout ce qui est manifestation, agenda, carnet d'adresse, mais aussi montrer toutes les initiatives, hein. Ils aiment bien tout ce qui est initiative un peu collective, locale, voilà, hein, c'est style Facebook, c'est le groupe qui se monte pour soutenir tel ou tel aspect de la vie de quartier. Voilà. Alors, ça c'est au quotidien. Pour globalement sur toutes les générations, la grande question du moment, c'est la question de l'altérité. Alors c'est sûr que c'est encore plus fort depuis le début de l'année et les événements qui sont arrivés, mais on l'a vu monter toute l'année dernière. Parce que ce qui se passe avec le fondamentalisme politique de l'islam, la montée aussi de Daesh, la question aussi des ados qui partent combattre là-bas, enfin ça pose plein de questions en France, avant même les événements qui sont venus de début janvier, qui sont venus cristalliser tout ça. Mais en tout cas, il y a quand même une question fondamentale qui traverse, en tout cas les plus âgés, les quinquagénaires, sur quid de mon identité, de ma culture philosophique lorsqu'elle est menacée, par une, en tout cas, par la montée d'un fondamentalisme qui remet en cause, en tout cas, qui attaque idéologiquement cette culture. Alors, ça pose plein de questions. C'est une question très ambivalente. Je dirais que pour les cadras, ça les trouble d'autant plus qu'ils ont vécu quand même dans c'est la génération touche pas à mon pote. Qui est du coup traversé, enfin face à ces questions-là. Donc quid de la tolérance face à l'intolérance? Derrière, faut pas se leurrer, c'est quid de l'islam fanatique? C'est une question très sensible à traiter, mais en tout cas, si on veut la traiter peut-être de manière la moins polémique, c'est vraiment cette question de la tolérance face à la montée de l'intolérance. Comment œuvrer par rapport à ça. Et pour les trentenaires, il y a bien sûr cette question-là qui est toujours là, mais la question de l'autre, elle est beaucoup plus vaste finalement sur cette génération-là. C'est le rapport à l'autre, pas seulement l'autre qui est différent, mais c'est le rapport à l'autre mot semblable qui est questionné. Et on a quand même si je sais qu'on a des jeunes catholiques très pratiquants qui sont sur un retour, mais qui sont peut-être sur un retour en force de aux vraies valeurs de la famille, etc., mais peut-être par réaction, quand même ce qui traverse cette génération-là de manière globale, c'est qu'elle réinterroge tout, et notamment le sens du couple et le sens de la famille. Quand on les interroge, moi je mène pas mal d'études sur le sens de la famille depuis de nombreuses années, tous ceux qui ont moins de 40 ans, la grosse question c'est d'abord, vivre en couple, est-ce qu'il vaut mieux vivre seul ou vivre en couple? C'est quand même la grosse question qui taraude cette génération-là. Est-on plus heureux seul qu'en couple? Est-ce qu'il ne faut pas développer une espèce de relation un peu éphémère, mais dans l'idée que faut mieux. Quid de privilégier l'amitié plutôt que l'amour? Je vous livre ces questions parce que j'ai encore mené une étude de l'année dernière, c'était très très fort là-dessus. Et est-ce que certains dans cette génération-là se disant, finalement, les plus âgés, ils ont vécu dans une espèce d'illusion, l'illusion de l'amour, l'illusion du couple, l'illusion du prince charmant, nous, c'est vrai qu'on aimerait bien y croire, mais finalement, est-ce que la lucidité et la quête de liberté, c'est pas aussi de se dire, finalement, on vit mieux seul, et puis, comment on compose par rapport à ça? Donc, tout ce qui peut être questionnement là-dessus, et début de réponse, ils sont très preneurs, parce que c'est un vrai questionnement. Mais ça va plus loin, il y en a, ils se disent, est-ce que c'est mieux de penser seul ou à plusieurs? N'oubliez pas que c'est la génération en même temps très connectée, où on pense à plusieurs, on fait des choses en groupe, c'est la génération du coworking. Est-ce que c'est mieux de travailler seul ou à plusieurs? Et c'est des questions auxquelles ils aimeraient bien qu'on réponde. Vous voyez, donc c'est tout sur ce côté seul ou en couple, seul ou à plusieurs. En tout cas, les aider à réfléchir l'altérité autrement, et là encore, via des expériences inédites, privées ou collectives. En tout cas, les questionnements du moment. Et pour finir, à la rencontre de leur foi, donc forcément, je parle de ceux qui sont un peu plus, en tout cas qui sont sensibles, plus sensibles, au message chrétien. Et je parlerai des trois dernières générations, en tout cas les 55-70 ans, les plus de 50 ans. Clairement, ils sont, je vous l'ai dit, dans le cheminement spirituel. Donc, les questions concrètes qu'ils ont par rapport à ça, c'est comment les aider finalement à ruminer le texte, la parole de Dieu, à s'en inspirer. Tout ce qui est autour de la méditation biblique, de la lectio divina, est importante. Je n'ai pas tout marqué hein, sur mon slide, ça ne rentrait pas. Mais il y a aussi tout ce qui peut être de l'ordre du pèlerinage, mais du pèlerinage individuel, c'est pas en groupe, hein, du chemin de Compostelle, tout ce qui peut être l'illustration physique et concrète d'un cheminement spirituel, ça peut être aussi des aides auxquelles ils sont sensibles. Les 40-50 ans, ils sont dans une approche très expérimentale et tâtonnante de leur foi. Je vous ai dit qu'ils sont un peu sous le joug de plein de contradictions et d'une grande pression. Donc déjà, tout ce qui peut être dimension libératoire de la parole, tout ce qui peut être message de liberté dans la parole, tout ce qui peut être... ça c'est important. C'est quand même une génération qui a envie de se reconnecter à ses racines finalement spirituelles, culturelles, mais sans entrer dans le moule. Hein. C'est pas forcément une génération très pratiquante, c'est même souvent les moins pratiquants parce que même quand ils sont très croyants, ils sont tellement pris par les problèmes de famille, les problèmes de travail, le manque de temps, qu'ils ne vont pas à la messe même quand ils ont envie d'y aller. Donc c'est quand même celle qui va le moins à la messe. Soit parce que pas plus inspiré que ça par la messe, soit par vraiment manque de temps. Donc c'est vraiment quelque part là où on peut les aider sur le plan spirituel, c'est les aider à ritualiser leur foi au quotidien. Ils sont très preneurs, je vous le disais, de ce souffle, de cette respiration dans la vie, et notamment tout ce qui peut être comment installer un temps de prière, un temps pour soi, hein, déjà il voudrait presque un temps pour soi pour s'occuper de soi physiquement, mais un temps de prière, un temps spirituel pour soi au quotidien, ça ils sont preneurs, voire un temps aussi au quotidien avec les enfants, un temps spirituel avec les enfants, et tout ce qu'on peut leur donner comme presque hein, du mémo, guide, astuce pratique, c'est important là-dessus. Les 25-35 ans, ils sont plus à l'aise avec leur foi. Enfin, en tout cas, quand ils ont la foi, ils sont plus à l'aise. Mais je vous le rappelle, c'est une génération qui a été un peu coupée de la source et de la lettre et qui valorise beaucoup tout ce qui est décryptage de la parole, tout ce qui est éclairage des sources. Tout ce qu'on peut lui donner comme approche historique, déjà lui redonner les textes qui sont à l'origine de tel ou tel credo, etc. Donner une approche historique, un peu, oui, historico-culturelle du texte. Tout ce qui est formation biblique ou théologique. Alors sachez que c'est une génération qui est un peu éclectique, hein, elle a appris à faire un peu son maelstrom de culture sur Internet. C'est une génération qui se valorise par des approches un peu inédites et tout. Tout ce que vous pouvez faire c'est une génération, en tout cas ce qu'on sent monter sur cette génération, c'est vraiment la valorisation des pères de l'Église. C'est quelque chose d'un peu inédit, c'est moins accessible que l'Évangile. Si on peut leur faire des petites piqûres à partir de ça, leur livrer un bout de texte, c'est quelque chose de valorisé. Et pour tous, il y a vraiment tout le côté médiation artistique. Il y a quand même une grande envie par rapport aux perturbations, aux bouleversements du monde actuel. Ce besoin de se reconnecter à ses racines culturelles et tout ce qui peut être initiation, et je trouve que c'est important dans vos journaux parce que vous avez un patrimoine culturel chrétien local important, tout ce qui peut être médiation artistique, c'est dépassionné de tout débat spirituel, politique, etc. Tout ce qui peut être médiation artistique, c'est l'architecture, c'est la musique, etc. Tout ce qui peut être initiation, mais ça peut être des choses très... c'est la description d'un chapiteau, savoir reconnaître, ou en tout cas valoriser le patrimoine local. C'est quelque chose, ou en tout cas une initiation... style histoire de l'art, au patrimoine culturel local, ça peut réunir beaucoup de monde. Hein. Ça peut, c'est à la fois se recollecter à ses racines. Il y a un côté formation culturelle, donc c'est vraiment important. Hein, ça peut être un bon moyen d'accroche de ces différents lectorats. Alors, je regarde, j'en ai pour 3 minutes. Donc, quelle piste donc pour la presse locale chrétienne par rapport à tout ce qu'on a vu? Alors, ne pas oublier donc vos spécificités de presse locale, et je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez être à la fois sur le temps et l'espace comme personne d'autre, je dirais, ou comme aucun autre journal. Sur le temps, c'est-à-dire des temps, vous l'avez bien compris, selon les générations, ça peut être des temps, comment les aider dans des temps très individuels ou aussi des temps collectifs, hein, profanes ou sacrés, et comment nourrir différents espaces, les espaces très intérieurs, des questionnements très métaphysiques sur le monde, etc., ou des questionnements spirituels, mais des espaces extérieurs, mais très locaux, hein, pour les reconnecter au tissu local, ce qui est une des grandes tendances du moment. Et puis, sur ce qui est le religieux, je dis le religieux, j'aurais peut-être dû dire le spirituel aussi, mais en tout cas, si, je sais pourquoi j'ai dit le religieux, parce que c'est l'essence, en fait, du mot religion. C'est là où on peut recollecter tout le monde, et notamment les jeunes générations, les trentenaires et ceux qui ont entre 40 et 50 ans. C'est le religieux, c'est d'abord l'occasion de se relier à une mémoire, hein, mémoire culturelle, histoire et culture locale. Hein. C'est l'occasion de se relier à Dieu par des temps individuels, par des temps collectifs. Et c'est l'occasion aussi de relire le cours de sa vie. On a quand même la génération des cadras qui est en plein questionnement sur le choix de vie. La génération des trentenaires qui favorise d'autres modes de vie, en tout cas sur le style de vie. Donc c'est voilà, je pense que ça peut être 3 pistes pour connecter le religieux vraiment à ce qu'ils vivent. Hein. Donc c'est à la fois l'expérience spirituelle, mais comme démarche un peu culturelle, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, artistique, touristique, mais aussi comme dynamique personnelle. Voilà pour cette intervention. Voilà.